Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicoles, et bienvenue à une nouvelle série avec le collectif Brassicole Ensemble. C'est une nouvelle série qu'on fait avec eux autres, un regroupement d'entrepreneurs artisans indépendants et passionnés qui brassent des bières d'ici avec une gang que vous connaissez, que ce soit la Biologique Baldwin, la Main Frais, Descantons, Mission Loop et bien sûr Brasserie Générale, que vous connaissez tous. Le but de cette série, c'est vraiment comprendre le travail des membres qui sont là-dedans, comprendre aussi comprendre un petit peu le travail qui font en arrière de ça, de cette collectif. Et comme vous savez, on a fait un spécial dans le numéro Les Affaires Brassicoles. Vous pouvez voir, écouter un peu ce qu'on fait. Puis bien sûr, on a une série qui est en ligne en même temps. Écrivez Collectif Brassicole Ensemble sur votre site de Baron Mag, vous allez le trouver. Et bien sûr, on va le mettre dans à la fin de l'entrevue. Aujourd'hui, on parle avec la gang de la Main Frais, qui sont à Magog. J'ai eu la chance de visiter Éric Noël, qui est le brasseur en chef de là-bas. Puis bien sûr, parler avec lui de bière, parler un petit peu de marketing, un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, les défis qui s'en viennent pour l'année prochaine. Comme vous savez, la Main Frais fait des bonnes bières depuis très longtemps, des bières souvent très québécoises, ils travaillent beaucoup avec des produits ici. Comme tout le monde, il y a des défis en arrière de ça, puis le collectif Brassicole Ensemble, c'est une façon de passer à travers tout ça, puis bien sûr, mettre en place des stratégies de vente, des stratégies de distribution, puis bien sûr, tout un univers qui pourrait aider en arrière des brasseries. Si vous avez des questions, collectifensemble.com, on va mettre bien sûr encore toutes les informations sur notre site Internet. Puis bonjour Éric, comment ça va?
Ça va super bien toi Léo?
Ça va bien. Éric, écoute, merci encore pour ton temps parce qu'on est en temps des fêtes, toute l'équipe. Puis en même temps aussi, on a travaillé, on est allé visiter chez vous il n'y a pas longtemps à la fabrique. C'était intéressant. J'ai beaucoup aimé ton petit camion de café.
Oui.
Il y avait là-bas.
Nous, on l'appelle le camion.
Le camion, OK. Ouais. C'est cool, même, parce que j'ai vu quelques gens en Ontario, du monde qui ont des gros. Il y a un gars qui avait un. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait quelqu'un qui avait fait un limousine avec ça.
OK.
Avec des fûts. C'était fou comme. C'est comme OK. Puis ça, c'est bon, le petit affaire, ça fait passer un peu à l'Europe, un peu, puis à l'Asie.
Ouais.
Tout ça, c'était vraiment un coup intéressant. Avant de parler un petit peu du travail du collectif Brassicole Ensemble avec vous autres, pouvez-nous parler un petit peu c'est quoi la Main Frais? C'est quoi votre vision comme brasserie?
Nous autres, ça fait la Main Frais, ça fait depuis 1999. On fête notre 25e anniversaire en 2024 cette année. Donc ça fait quand même longtemps qu'on est dans le paysage brassicole au Québec. Moi, ça fait depuis 2007 que je m'occupe de la production. Il faut savoir qu'on a ouvert au début, c'était un brew pub. Donc, ça fait longtemps qu'on est ancré dans la région. Et puis, depuis maintenant, bientôt 11 ans, on a une fabrique qui est dans le parc industriel à Magog, qui nous a offert la possibilité d'augmenter notre capacité de production, produire plus de produits, plus de visibilité, une meilleure distribution. Puis en gros, surtout en tout cas, particulièrement depuis que moi je suis en place, moi ça a toujours été des produits les plus locaux possibles, vu que ça fait longtemps qu'on est dans la région. Les gens nous associent au canton de l'Est. Je ne veux pas être chauvin, mais les cantons de l'Est, c'est vraiment une des plus belles régions au Québec. Et puis, on est fiers d'être ici, on est fiers de représenter notre région. Et puis, on aime travailler avec des produits locaux. On est chanceux avec le climat qu'on a ici, que ce soit des fruits, que ce soit des produits forestiers, quoi que ce soit. On a vraiment une belle variété de produits qui nous permettent de créer des bières avec une identité vraiment locale. Et puis, ça a toujours été un peu le leitmotiv de la Main Frais, produire des bières locales, des ingrédients de qualité, puis tout le temps en finesse et puis bien équilibré. Des produits fins et équilibrés, pour moi, c'est de l'or dans la bière. Parce que tu as le goût, il faut que tu aies le goût d'en boire plus que.
Tout le temps.
Je veux pas encourager le monde à boire, là, mais si tu prends un verre de quelque chose et que tu es comme OK, non, basta, j'en peux plus, là, ben, je pense qu'il y a un problème.
Mais en plus, tu as raison, quand on laisse, man, il y a vraiment beaucoup de brasseries qui ont leur créneau à eux autres, c'est vraiment. La philosophie derrière de ça, c'est des produits locaux à 100%. Ça, c'est, mm-hmm. Là, j'en vois de plus en plus. Je sais pas, le côté territorial, comment le monde voit ça, mais tu sais, c'est comme qu'il y a 11 comtés, qu'il y a Robin, qu'il y a ce coin-là. Tu sais, c'est tout du monde que, quand ils sont basés dans ce coin-là, ils ont dit, ben, écoute, on le produit local est vraiment intéressant. J'appelle 11 comtés qui me disait qu'ils voyaient des petits fruits quelque part, ils s'arrêtaient dans l'auto, puis ils ramassaient des petits fruits pour essayer de nouveaux produits. Tu sais, je sais que c'est votre philosophie dans ce coin-là, tu sais, de faire des produits comme ça. Vous, bien sûr, vous êtes dans un moment, vous autres, c'est sûr que. Ça fait longtemps que vous brassez, vous avez vu l'explosion de la microbrasserie dans le temps, en 99, c'était vraiment comme, tu mettais une bière, ça se vendait en 2 secondes, ça tranquillement se faisait, ça fait 10 ans de ça. Maintenant, pas vous avez vendu, vous étiez dans le côté plus difficile, après ça, vous avez vécu le côté plus intéressant. D'où tu vois les défis qui existent maintenant, parce qu'on s'est parlé vite, qu'on était à l'IMBQ cette année 2024. On s'est parlé des petites affaires comme ça, mais malgré qu'on vous connaît depuis longtemps, tout ça, c'est quoi les défis qui existent maintenant pour les microbrasseries, quand ils s'en viennent maintenant, puis c'est plus tard que ça dans les années 2025-2026?
Ben, nous autres, ce qu'on a vraiment commencé à faire dans les dernières années, c'est pour toucher encore à un autre sujet, là, si on parle d'ingrédients québécois, c'est de plus en plus facile de brasser des bières de qualité exceptionnelle avec des ingrédients 100% québécois. Nous autres, vu que ça fait longtemps qu'on est dans le paysage, les gens nous connaissent. Il y a plein de nouveautés qui sortent, de nouvelles micros et tout ça. Puis des fois, oh, ben, le monde, c'est normal que le monde veuille essayer des nouveautés. Mais nous autres, je pense qu'est-ce qui nous a tout le temps distingués, puis c'est le commentaire qui revient le plus souvent des personnes qui apprécient nos produits, c'est que la même frise, c'est tout le temps équilibré, c'est tout le temps bien fait. C'est basé sur des styles classiques, c'est des réinterprétations de styles classiques, mais c'est tout le temps équilibré, c'est tout le temps bien fait. Et puis, ben nous autres, on garde le cap là-dessus, puis on sait que pour les gens qui apprécient nos bières, ben on est une valeur sûre, mais... Là, en plus, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'offrir de plus en plus de produits avec des ingrédients 100% québécois. Ben, ça, pour nous, c'est une autre manière encore de se distinguer. C'est de dire, bon, ben non seulement, là, on continue à brasser les mêmes genres de produits équilibrés et de tout en finesse que vous appréciez, mais en plus, on a une plus-value parce qu'on travaille de plus en plus avec des ingrédients québécois et il y a de plus en plus de nos produits que tout ce qu'il y a dans la bouteille, tout ce qu'il y a dans la canne, tout ce que tu as dans ta pinte, ça vient du Québec. Et bien ça, je pense que c'est la voie à suivre si nous autres, on veut continuer à faire un bon long bout de chemin, le même chemin qu'on suit depuis 25 ans maintenant.
Ouais. C'est vrai que c'est une belle stratégie de vous différencier avec ça. C'est le monde, c'est comme quand il arrive chez quelque part, il voit que c'est une bière différente. Bien équilibrée, bien québécoise. Est-ce que toi, tu mets ça en avant souvent, là, le fait de travailler à 100% québécois? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant?
Oui, on est même en train de on est en train d'instaurer là, l'identification Aliment Québec. Là.
Okay.
Et puis, donc, ça, sur nos produits qui sont vraiment 100% québécois, ça va être clairement identifié. Ça l'est déjà, là, pas avec la certification Aliment Québec. Mais mettons, dans la description, que ce soit sur des canettes, sur des étiquettes de bouteilles, quand c'est 100% québécois, on le spécifie. On est fiers, nous autres, d'afficher les ingrédients qu'il y a dans nos bières pour que les gens constatent que tu peux faire des bières de qualité exceptionnelle avec des ingrédients 100% québécois.
Puis en plus, vos coûts sont bons. Tu sais, vous avez ton price point qui est bon. Tu sais. Souvent, quand on parle des bières québécoises, on pense que c'est cher. Souvent, quand on va dans une brasse, dans un dépanneur, dans une bouteille spécialisée, vous avez des biens à un point que les prix sont bons. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas d'exagération de prix en arrière de ça. Vous avez un prix de bas pour que le monde puisse essayer ça, c'est intéressant.
Oui, ben, c'est sûr. De toute façon, il ne faut pas oublier, là, oui, les Allemands, les Américains, les Tchèques ont des excellents maltes, si on parle de maltes. Mais ils vont coûter plus cher que si tu travailles avec du malt québécois.
Ah
oui? OK, peut-être qu'il y a quelques années, la qualité n'était peut-être pas tout le temps au rendez-vous. Puis je pouvais comprendre Il y a 10 ans, tout le monde travaille avec du malt allemand, du malt anglais. Mais honnêtement, aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus vraiment de raison. Oui, tu peux par souci, de si tu dis que je veux faire une pils tchèque vraiment 100% authentique, puis tu veux travailler avec du malt tchèque, puis du houblon tchèque, puis une levure tchèque, rien contre ça, au contraire, tu sais, ça peut être très intéressant. Mais en 2024, s'obstiner à dire moi je travaille juste avec des maltes européens parce que la qualité au Québec n'est pas au rendez-vous, je m'excuse, mais c'est pas vrai, là. Tu peux brasser des bières exceptionnelles avec des ingrédients 100% québécois.
C'est quoi les plus gros défis qui sont pour vous autres? Parce que comme je sais que la mise en place des stratégies de vente, des affaires comme ça, des stratégies dans le fût, dans les canettes, je ne sais pas si vous allez vous lancer dans une caisse de 12 à 3,55, un de ces jours, whatever, ou même peut-être à boire. Mm. C'était pas ça. C'est que c'est justement, vous pouvez t'avoir, c'était un peu ça. Mais tu sais, c'est quoi votre stratégie, disons, à long terme? Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? T'sais? Vous avez le côté, la qualité, les bières québécoises, le plus à 100% comme ça. Mais c'est quoi le défi que tu vois dans toutes les années de connaissances que tu vois ça, que le monde qu'on fait des erreurs, tout ça. Qu'est-ce que tu vois à venir dans 2025 puis
2026? Les défis à venir, c'est sûr, là, on ne va pas se le cacher, il y a de plus en plus de joueurs. OK? Puis si on dit, mettons, que la part de la tarte là, des bières de microbrasserie, elle n'augmente pas tant que ça. Là.
Ouais.
Au contraire, même, peut-être, il y a des habitudes de consommation d'alcool qui font en sorte que oui, les gens boivent peut-être moins, mais je pense qu'ils boivent mieux. Donc, ça fait en sorte s'il y a de plus en plus de joueurs, parce que peut-être qu'on a un genre de plafonnement un petit peu dans le paysage brassicole au Québec. Là. C'est peut-être un peu moins en pleine effervescence, en pleine expansion, comme ça l'était, mettons, il y a 5 ans, 10 ans à peine. Donc, les défis, entre autres, c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Nous, on le constate aussi, mettons, dans des événements, des festivals, des affaires de même, les gens cherchent la nouveauté. Les gens, ils sont curieux d'aller découvrir des nouvelles affaires. Et quand toi, tu es un vieux joueur comme nous autres dans le paysage, ben il faut que ça soit la constance. Il faut que ça soit la constance. Puis comme je ne veux pas me répéter, mais je vais me répéter quand même, tu sais, c'est comme nous autres, notre identité, c'est notre région. Ça se remarque par les noms qu'on donne à nos bières. La vaste majorité, il y a un lien géographique, historique avec notre région. Faut pas oublier aussi que les cantons de l'Est, là, l'évolution des brasseries artisanales au Québec, c'est une région forte parce que parmi les premières, c'était ici. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, Massawippi. Ça fait vraiment longtemps. C'est là, le Lions Pride à Lennoxville, ça fait des années qu'ils sont dans le paysage. Les cantons de l'Est, on est 5% de la population du Québec, mais on a 10% des microbrasseries.
T'as raison.
Je pense que per capita, on a plus de microbrasseries par personne d'un canton de l'Est qu'à Montréal.
Est-ce que vous pensez que c'est comme le Vermont du Québec un peu?
Bien, c'est sûr que géographiquement, on est à côté. Là.
Il y a un côté très hippie de votre façon de penser, façon d'aller chercher la terre, de travailler sur les affaires. Je pense qu'il y a une vision Vermont avec vous autres.
Ouais. Bien, la géographie est presque identique. Le climat est pas mal identique. Et puis, je veux dire, il n'y a pas grand microbrasserie dans le canton de l'Est qui n'ont pas une couple de chums, une couple d'amis de l'autre côté de la frontière. Puis, même, tu sais, en théorie, là, tu vas aux États-Unis pour 24 heures, t'es pas supposé d'amener de la bière, là. Ben, les douaniers, là, quand on rentre aux États-Unis, ils disent « Avez-vous de l'alcool? » Je dis « Ben oui, mais je suis brasseur. » Puis on va visiter des chums, mais on va passer la journée au Vermont. J'ai amené 5-6 bouteilles, puis je vais leur apporter ça pour qu'ils voient qu'est-ce qu'on est capable de faire ici. « Ah, OK, correct. Passez, pas de problème. » Quand on revient, on revient avec des bouteilles, je dis « Avez-vous ramené de l'alcool? » Ben, oui. Il dit, mais là, vous n'êtes même pas parti 24 heures. Je dis, mais je suis brasseur. Je suis parti ce matin, j'ai amené des bouteilles. Il dit, vous avez fait un switch. Je dis, ben oui. Des échanges culturels, c'est ça que c'est.
Moi aussi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Je suis allé au Vermont, rencontré 12 brasseries. Puis c'est vrai, j'ai fait des switches là-bas, pas mal. Puis je suis revenu avec un peu trop de bière là, moi, à ma valise, qui n'était pas supposée. Mais le gars dit, ouais, vas-y. Travaille pour le magazine Baron, tu peux passer. Je me rappelle qu'il m'a dit, comme go. Beaucoup de canettes. Est-ce que vous pensez, vous autres, lancer des 355 qui s'en risquent? C'est un marché qui vous intéresse, vous autres?
On y a déjà pensé. C'est vraiment pas, il n'y a rien de défini, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je pense qu'effectivement, des fois, il y a peut-être un marché pour ça aussi. Les gens aimeraient peut-être des fois goûter plus de produits, mais en plus petit format, moins cher, un peu moins cher. Il y a forcément cet enjeu-là, il y a un enjeu économique. Les gens, surtout nous autres, on le constate, les jeunes générations, consomment moins d'alcool. On le voit dans leurs habitudes. Donc, il y a quelque chose. Le monde brassicole au Québec est en mouvance maintenant. Puis il faut être à l'écoute des tendances pour être capable de s'adapter, se virer de bord, puis offrir des produits qui vont intéresser diverses clientèles. T'sais? Parce que la clientèle est en mouvance.
Ouais. Vraiment, à 100%, tu as raison. Il n'y a pas. Ouais. Le monde qui reste pogné dans leurs anciennes habitudes, ils vont mourir, c'est ça l'affaire, tu sais. Ouais, t'as raison. Une affaire que vous, il y a quelque chose, vous avez commencé, ben, ça fait longtemps, vous travaillez avec la gang de collectif ensemble, puis bien sûr, la raison qu'on travaille avec nous autres, on a commencé à penser avec eux autres, c'est parce qu'il y a un côté intéressant de trouver des nouveaux modèles économiques. C'est ça l'arrivée de ça, tu sais. Nous autres, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, puis nous autres, on trouve souvent, tu sais, le monde qui trouve des structures, tu sais, comme, allez, se mettre ensemble, on vient d'annoncer que Caribou, puis Donam, puis Trois Lacs sont ensemble, Micro-du-Lac sont ensemble depuis longtemps. Il y avait eu Swelling qui avait été essayé, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont essayé ça, tu sais. Mais toi, ça fait longtemps que tu es dans cet ensemble-là, collectif Brassicole, où est-ce que vous travaillez ensemble, tu sais, grossir les bières de qualité, mettre en place, bien sûr, la distribution, tout ça. Qu'est-ce qui t'a attiré de travailler là-bas? Puis c'est quoi ton travail avec eux autres?
Ben, nous autres, notre partenariat, ça a commencé en 2021. Et puis, c'était, on a eu l'opportunité, avec le changement d'administration ici à la Memfré, on a eu une opportunité d'entrer au collectif pour la production, commercialisation, distribution de certains produits, de nos produits forts, que nous, par souci de vouloir continuer à développer des nouveaux produits ici à Magog, à notre fabrique, on s'est dit, bon ben, on a identifié quelques produits, quelques bières, que les recettes c'était éprouvé, qu'on avait déjà commercialisé ces produits-là, la réponse, l'intérêt de la clientèle était vraiment au rendez-vous. Mais nous autres, il y avait un enjeu de capacité de production. Et puis, ben, quand on a vu l'opportunité de pouvoir collaborer avec le collectif, qui partage des valeurs d'achat local, d'ingrédients locaux comme nous autres, ben, ça nous a paru comme une excellente opportunité de distribuer à grande échelle certains des produits de la Memfré, sans être obligé de faire des investissements monstres ici à Magog. Bon, l'imprimante qui part. Donc, sinon, c'est ça. Sinon, ça aurait été vraiment des gros enjeux d'expansion pour augmenter, genre comme tripler, quadrupler la capacité de production ici à Magog. Et puis, ça nous semblait plus sensible d'un point de vue économique de déléguer, travailler avec eux autres, puis de transférer la production de certains produits destinés à grande échelle. Tu sais, on parle de grande surface, on parle des Provigo, Loblaws, Maxi de ce monde. Ben, nous autres, notre petite fabrique, qu'on aime bien à Magog, on n'avait pas la possibilité de distribuer des produits aux quatre coins de la province, comme c'est le cas maintenant, depuis qu'on travaille avec le collectif.
C'est vraiment le but du collectif avec vous autres, c'est vraiment vous apprivoiser dans une place pour grossir avec eux autres, c'est ça?
Exactement. Non, eux, ils ont les capacités de production pour répondre à ces besoins-là. Donc, le choix nous semblait complètement naturel.
Puis vous autres, à part le côté production, est-ce que, comment ça fonctionne avec eux autres? Comment vous travaillez avec eux autres? Est-ce que vous travaillez du côté aussi marketing avec eux autres? Vous avez des meetings de production quand vous avez des nouveaux produits, bien sûr. Et comment ça fonctionne avec eux autres?
Oui, effectivement. Il y a des échanges à tous les niveaux. Là. Tu parlais marketing, etc. J'avoue que moi, je me concentre pas mal plus sur l'élaboration de nouveaux produits, production, etc., les recettes. Oui. Nous autres, ont une équipe solide déjà en place là, pour la vente, pour la distribution. Donc, on le voyait quasiment un petit peu comme l'expression un peu galvaudée, là, projet clé en main. Là.
Ah ouais.
On le voyait un petit peu comme ça. C'est sûr que tu changes de microbrasserie, tu as beau avoir les mêmes ingrédients, l'équipement n'est pas pareil, l'eau n'est pas pareille. Je ne cacherai pas qu'il y a eu une période d'adaptation, mais bon, la communication était au rendez-vous. On échangeait, on se déplaçait, on allait là-bas, on donnait des cues, on checkait les résultats, on disait bon, je pense la prochaine, on va peut-être tweaker ça un petit peu. Puis, je pense qu'on est arrivé à des résultats plus que satisfaisants. Et puis, nous autres, on le remarque parce que, tu sais, des produits qui ont été brassés, mettons, à Magog pendant des années, puis que là, graduellement, la production s'est en allée au collectif. La qualité est au rendez-vous, puis les gens apprécient les produits comme c'était le cas avant.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, puis j'ai parlé de ça avec le brasseur, puis avec le propriétaire, puis tout le monde. C'est quand vous êtes quand même 5 brassiers là-bas, c'est quand vous allez commencer à faire des collabos entre vous autres?
Oui, il y a déjà été question de le faire. C'est sûr que, il y a peut-être d'autres membres du collectif qui sont un peu plus souvent sur place là-bas. J'avoue, nous autres, possiblement, ce qui nous distingue un petit peu des autres membres du collectif, c'est qu'il y en a beaucoup au collectif qu'ils n'ont pas d'installation de production. Okay. Donc, ils produisent tous leurs produits là-bas. Nous autres, ce qui nous distingue, c'est qu'on a encore, nous autres, premièrement, notre pub, qui est un gros point de vente à Magog. On a la fabrique à Magog aussi. Donc, on continue à produire. C'est des produits qui sont complémentaires. On ne produit pas les mêmes produits à Magog qu'on produit à Boucherville, au collectif, pour une foule de raisons. On est venu à la conclusion qu'il y avait certains produits qu'on préférait brasser ici à Magog, que ce soit pour des raisons organoleptiques, que ce soit matière première, que ce soit l'eau, que ce soit les équipements. Puis par contre, il y a d'autres produits qui le résultat est parfaitement satisfaisant, d'excellente qualité, qui sont brassés à Boucherville.
J'ai hâte à des collabos, j'aime ça quand des collabos. Toi, tu sais, c'est sûr qu'une des raisons qu'on parle avec toi aussi concernant le collectif, c'est qu'on veut comprendre nous autres, à long terme, est-ce que tu penses une stratégie intéressante puis une vision intéressante pour les brasseries au Québec à 2025? Parce que de plus en plus, on va aller voir le besoin de... comme tu vois, les coûts montent, que ce soit de la canette, de la bouteille, ces affaires-là, la vente, marketing, développer toutes ces affaires-là. Est-ce que tu vois comme stratégie pour les brasseries à 2025, ça pourrait être intéressant à mettre ça en place?
Moi, je pense pour toucher encore à l'origine des ingrédients. Je pense que ça, c'est dans l'ADN aussi, un peu du collectif, là, avec des ingrédients locaux. Et puis, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'il soit mis de l'avant. Le collectif, c'est pas juste un regroupement de bonnes brasseries. Mm-hmm. C'est des bonnes brasseries qui ont un souci, qui ont une conscience environnementale, de développement durable, et puis travailler avec des ingrédients locaux, produire des produits de qualité avec des ingrédients locaux, je pense que c'est vraiment la route à suivre. Et puis, nous autres, on est tout le temps en train de parler, de développer de nouvelles bières, tout ça. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, mettons, nous autres, on brasse, par exemple, on fait un 1000 litres de bière, une bière saisonnière qu'on brasse ici. Et puis, on la met en fût. Et puis, on sert ça à notre pub à Magog. Les gens capotent, les gens adorent ça. Mais là, nous autres, après ça, on peut se virer de bord, puis on peut se dire, le moment serait venu, là, il y aurait de la place pour rajouter un produit à notre line-up au collectif. Nous autres, on peut se fier à notre expérience qu'on a eue ici en disant, ben, telle bière, on l'a brassée deux fois et puis la réaction était hyper positive. Fait que c'est souvent un peu le processus qui va donner naissance à des nouveaux produits. C'est l'expérience qu'on a nous autres à plus petite échelle ici à Magog. Ben, la réaction de la clientèle au pub nous permet un peu de gauger qu'est-ce que ça serait la réaction de la clientèle si on parle dans des épiceries d'indépendants spécialisés.
C'est toi, tu penses qu'à long terme, ça va être une bonne stratégie pour d'autres brasseries en même temps aussi de se regrouper, des affaires comme ça?
Je pense que oui. Je pense vraiment que oui. Oui.
La beauté, comme je dis, je parle souvent avec du monde qui sont regroupés ensemble, c'est que ça ne marche pas, c'est le côté de la structure. Puis je trouve que le type brassicole ensemble peut amener une structure intéressante. Mais au mieux, même si tu n'es pas avec eux autres, mais qu'au moins comprendre comment ça fonctionne, la structure et ça.
Oui, absolument. Comme je dis, pour me répéter, là, la partie clé en main nous intéressait beaucoup parce que, imagine une petite microbrasserie de notre échelle, avoir des représentants des ventes aux quatre coins de la province, faire la rotation des stocks, etc., etc. C'est toute une autre paire de manches. Ça aurait demandé, tu sais, on parlait d'expansion, c'est pas juste l'équipement là, qu'il faut que tu augmentes, là, c'est le monde sur la route, tout ça. Puis tout ça, c'est des sous, c'est des gros investissements. Puis quand tu as déjà une structure en place comme ça, bien, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut diffuser ses produits à grande échelle au Québec. C'est pas mal plus intéressant d'un point de vue économique que tout faire toi-même tout seul dans ton coin. Là, tu sais.
Bien, excellent. Écoute, Éric Noël, merci beaucoup pour ton temps. Encore merci pour tes bières, parce que c'était, comme je disais la dernière fois, c'était délicieux. Muy rico, muy rico.
Quand tu veux, tu reviens nous voir.
Oui, je m'en viens.
Ouais.
J'ai comme trois nouvelles brasseries qui se couvrent dans ton coin, ça c'est sûr que je vais te voir. Bien sûr, Éric Noël, s'il y a du monde qui veut te contacter pour des produits comme ça, comment on fait pour te contacter?
Ben, tu peux rendre disponible mon adresse courriel. Il n'y a pas de problème. Je réponds tous les jours. Oui, absolument. Puis n'importe qui aime la bonne bière, c'est de passage à Magog, envoyez-moi un courriel à l'avance. On est tout le temps heureux d'accueillir tout le monde, faire goûter à des produits, parler de bière. On est du monde passionné, fait que ça ne va pas changer ça. Puis on aime la bière, on aime le bon monde, on aime les bons temps.
Tu sais que quand je suis allé te voir, je l'ai mangé après ça au pub.
Ouais.
Puis j'ai goûté aux onion rings.
Ouais.
C'était gros, puis c'était bon, man.
Ah ouais?
Oh ouais, moi, je suis un fan d'Onion Ring, puis le monde qui aime des fans d'Onion Ring, aller là-bas, ils étaient gros, j'ai mangé de la soupe avec ça, c'était bien happy joy avec ça.
Ah ben super, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, Léo.
Ouais. OK, muchas gracias, Éric Noël.
OK.
Vraiment pas long, bien sûr. Si tu as des voyages, il faut me contacter tout le temps. C'est intéressant ce que tu fais. Si tu peux amener quelques bières du Mexique, c'est tout le temps intéressant, une bière mexicaine avec du tequila, tu sais, dans les vols de tequila, c'est tout le temps bon. So, passe des bonnes fêtes, puis à bientôt.
OK. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.
Feliz Navidad.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci à tout le monde d'écouter notre nouvel épisode avec le collectif Brassicole Ensemble. Si vous avez des questions, bien sûr, collectivensemble.com. On mettra l'information à la fin du podcast. Si vous avez des questions, Leonardo@baromag.com. Merci beaucoup et à la prochaine.